Bonjour, de retour après la pause. J'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Mme Bianca Nugent. Bonjour, Mme Nugent, ça va bien?
Très bien,
Ça
merci.
va bien. Vous êtes présidente de la Coalition des parents d'enfants à besoins particuliers du Québec. Et vous avez été co-autrice, si je peux dire, d'une lettre ouverte qui a été adressée au gouvernement, qui a été publiée dans les médias il n'y a pas très longtemps, qui s'intitulait 10 injustices qui font que les parents d'enfants à besoins particuliers n'en peuvent plus, sont tabous, si je peux
Oui.
dire. Et on va passer, si vous voulez bien, rapidement au travers de ces 10 injustices, parce que chacune pointe vraiment, met le doigt sur quelque chose qui fait mal.
Tout à fait.
On pourrait dire 10 injustices, mais on pourrait aussi essayer de trouver 10 solutions.
Tout à fait. C'est certain que ces injustices-là ont été évidemment colligées par la journaliste Dominique Scali du Journal de Québec. Et
D'accord.
ça a été évidemment suite à un long appel, de longs partages de témoignages de parents d'enfants à besoins particuliers du Québec colligés au fil des pratiquement 10 dernières années, là, depuis le
OK.
début de notre mouvement. En gros, le message, c'est qu'on n'en peut plus. La pandémie est venue rajouter, est venue fragiliser déjà pour certains parents qui sont plus vulnérabilisés. D'autres ont réussi à garder la tête
En haut de
en
l'eau,
haut de l'eau, mais quand même, c'est pas
comme on
une...
dit, on prend des bouillons de temps en temps.
Exactement, puis c'est pas le niveau de qualité de vie auquel on s'attend. Les impacts sont sociétaux sont immenses, ils sont méconnus et il est temps que ça soit nommé haut et fort et que nos leaders politiques aient le courage de s'y attarder.
Oui, parce qu'il y a l'impact sur l'enfant
Tout à fait.
qui ne pourra pas développer tout son potentiel.
Oui,
Ça
tout à fait.
commence par ça.
Ben oui.
Ça, c'est l'impact sur les parents qui ont une vie, je dirais, parfois infernale.
Oui, on coordonne, on porte plusieurs chapeaux. On est coordonnatrice des services de nos enfants, on est leur travailleuse sociale, on est leur avocate, on est leur infirmière, on est leur enseignant quand l'école est fermée ou que, bon, dans la pandémie, vous imaginez les enfants qui recevaient du soutien pratiquement de 1 à 1 ou qui étaient en classe spécialisée soudainement. Bon, on
Ils
s'entend que c'était une décision qui était... malheureusement, difficile à prendre, mais l'impact est quand même là, surtout à la lumière de ce qu'on sait en ce moment avec tout ce qui se passe dans le milieu de l'éducation, les bris de service.
parce que puisque le retour post-pandémie nous a pas ramené à la situation 2019.
Non, et même la situation de 2019
Était déjà difficile.
était déjà difficile. Et on le voit là en ce moment, là, on entend les revendications. Aujourd'hui, c'est jour de grève.
Oui,
Alors, on s'entend que
ça klaxonne.
dans cette réalité-là, je pense qu'il y a un trop-plein, que ce soit les parents, que ce soit les éducateurs, le personnel les enseignants, les professionnels qui œuvrent autour de nos enfants. Vraiment, les conditions sont exécrables pour tout le monde. La qualité de tout le monde est affectée là-dedans parce que malheureusement, il n'y a pas de vision à long terme en adaptation scolaire au Québec. On se passe la balle, on se passe la patate chaude. La politique d'adaptation scolaire date de 1999. Il n'y a pas eu un gouvernement qui a eu le courage, le
De
leadership
réformer.
de réformer l'adaptation scolaire au Québec parce que c'est un capharnaüm et ça prend vraiment non seulement un doigté, mais des gens, des personnes
S'engage.
qui s'engagent, mais qui connaissent l'éducation. Il faut arrêter de changer cette position-là, puis politiser l'éducation au Québec, puis vraiment mettre les experts au centre du débat, et surtout les personnes concernées.
Les enfants, leurs parents, et voir c'est quoi le projet,
Oui,
parce que,
d'inclure les parents, parce que on s'entend que ça prend un village pour élever un enfant. L'école, c'est le deuxième espace de socialisation, mais le premier, c'est toujours sa famille, puis sa famille est là. Puis quand nos enfants sont pas à l'école, ils sont chez nous. Puis quand nos enfants vont quitter l'école, ils
ils
vont
reviennent,
passer,
oui.
ils reviennent et on le sait. Les parents d'enfants à besoins particuliers, comme c'était démontré dans l'article, on est en fait même il y a un récent rapport de l'OCDE qui démontre que les parents d'enfants ayant un besoin d'un grand soutien sont 36 fois plus susceptibles que des parents qui ont des enfants au développement typique de se séparer,
oui,
de
oui,
vivre des stress,
oui, exactement. Ah, oui.
Et même pratiquement le double pour ce qui est de divorce. Alors,
oui, oui. C'est assez malheureusement classique comme situation. Toutes les fois où je peux dire d'expériences très empiriques et anecdotiques où je rencontre des parents d'enfants qui ont, mm-hmm. qui ont des besoins plus importants, je m'attends presque au cours de la conversation d'apprendre qu'il y a un divorce. C'est presque...
Ou là, comme on le démontre aussi, c'est que on, pour pouvoir pallier aux bris de service dans le réseau oui. d'éducation qui sont prescrits selon la loi sur l'inscription publique, mais il n'y a pas de personne aux portes pour pouvoir offrir les services.
Ben, on va revenir parce que dans les points qui ont été soulevés dans cet article, mm-hmm. je dirais phare, parce que c'est vraiment un excellent résumé de la situation.
Ah oui.
C'est un cri d'alarme. Il y a d'une part des choses qui se passent à l'école.
Oui.
Il manque de personnel, ça, c'est une chose.
Qualifié et formé.
Personnel qualifié, formé. Il y a un problème aussi au sujet de l'utilisation, si je peux dire...
Des salles de retrait.
Des salles de retrait, parce que...
Parce qu'il y a des trop-pleins.
Ou non formés, mm-hmm. le personnel utilise ce fourre-tout, sans faire de méchants jeux de mots, là, pour dire, ça règle le problème pour tout de suite, mais ça n'avance pas le développement de l'enfant.
Ah oh non, et ça brime son oui. droit à l'intégrité, son droit à la sécurité, son droit d'être éduqué dans un environnement bienveillant et bien traitant.
Oui.
Et par ailleurs, justement, il y a un colloque national organisé oui. ce mercredi par la Commission des droits de la personne et de la protection de la jeunesse.
Ici à Montréal? Ou...
Ici à Montréal okay. et en ligne. Les gens peuvent retrouver le lien. C'est toujours possible de s'inscrire en ligne, malheureusement
qui
en présentiel.
Qui organise?
La Commission des droits de la personne et de la protection. Parce que maintenant, okay. on fait un état des lieux. On fait un appel, en fait, de tous les acteurs principaux qui vont être concernés parce que les rapports existent, M. Beauregard. Les rapports existent depuis des années. Ça
oui,
fait des années.
Mais ils s'empilent.
Ils s'empilent. Les recommandations sont probantes. Ils sont oui. basés sur la science, sont basés sur les bonnes pratiques.
Mais ça reste lettre morte. Puis toute cette, je dirais, cette passivité face
tout à fait,
au problème,
ce laxisme.
Ce laxisme, ça crée après ça des vagues dans les milieux familiaux. On parle de divorce, on parle d'augmentation, on parle aussi, je dirais, de pression socio-économique plus souvent chez les femmes qui vont se retrouver seules avec l'enfant et là dans des situations périlleuses.
Tout à fait. Et la coordination des services. Écoutez, savez-vous combien ça coûte une séance d'orthophonie ou d'orthopédagogie ou d'ergothérapie à Montréal par heure? Alors, et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas un gouvernement qui se penche sur la question de regarder dans les rapports d'impôts des parents oui. d'enfants à besoins particuliers combien d'argent sont réclamés à l'État faute d'avoir les services de cette manière, faute d'avoir les services.
On
donne des avances.
Au privé.
On va au privé.
Ben oui.
Mais c'est une lésion de droit, M. Beauregard, parce que c'est cet accès-là aux services complémentaires devrait... selon la loi, être universel et offert.
Et le fait que l'accès, le recours au privé soit de facto devenu la solution, bien là, ça pénalise toutes les familles qui, malheureusement, n'y ont pas accès pour des raisons économiques évidentes, surtout si on est dans une situation de famille brisée, là, où il y a juste un salaire et encore à temps partiel souvent parce que...
Ou la précarité.
La précarité, oui, tout à fait.
On refinance nos hypothèques, on déménage. Oui. Il y a un parent qui m'a témoigné, on déménage, on est obligé de déménager à quatre dans un condo parce qu'on ne peut plus se permettre la maison qu'on aurait besoin, qu'on a besoin pour élever nos enfants, mais malheureusement, on n'a pas les moyens.
Pour le faire, oui. Puis dans ce sens-là, ça affecte non seulement immédiatement les parents, mais aussi, je dirais,
toute la fratrie,
le milieu
toute la famille.
Familial.
C'est
oui,
écosystémique.
Exact. Oui, tout à fait. Parce qu'on peut penser aux frères, sœurs, grands-parents, ainsi de suite, là, de l'enfant concerné. Là. Il y a comme un effet là, d'élargissement, puis là, tout le monde en souffre parce que tout le monde doit contribuer parce que l'État ne fait rien.
C'est ça. L'État ne fait rien, l'État ne prend pas ses responsabilités et puis tous les acteurs sociaux, économiques, éducatifs malheureusement ne prennent pas la charge de responsabilité qui s'impose pour toutes sortes de raisons. Mais on parle d'enfants ici, on parle oui. d'êtres vulnérables, on parle de nos futures générations.
On parle d'êtres humains, là, ici. Là. On ne parle pas de nid de poule.
Non, exactement. Voilà. Alors, si on est capable d'investir dans des usines de batteries, je pense qu'on devrait être capable aussi de réfléchir à comment on peut financer, mieux financer adéquatement, oui. basé sur l'intensité de soutien, sur une évaluation individualisée, pour vraiment s'assurer que si on doit mettre l'intensité de soutien en bas âge, comme on le fait avec Agir tôt dans oui. les services sociaux, bien, il faut agir tôt aussi en éducation.
Oui, oui, tout à fait, parce que sinon on perd, encore une fois, le potentiel de cet être qui commence sa vie ne sera jamais tout à fait, je dirais, son potentiel ne pourra jamais, il ou elle ne pourra jamais vivre toute sa plénitude, parce que toutes sortes de contraintes. En 2018, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse tirait déjà la sonnette d'alarme. Ça, c'est avant la pandémie.
Bien sûr.
Alors là, 5 ans plus tard, il y a un colloque ce mercredi.
Oui.
Là, ce ne sera plus la sonnette d'alarme. Là. Ça va être le feu 5 alertes, comme on dit.
Tout à fait. Et
jusqu'à maintenant, c'est lettre morte. Il n'y a pas de réaction du gouvernement. Personne.
Non, le ministre de l'Éducation va avoir une allocution.
D'accord.
Mais c'est on s'entend qu'il va y avoir non seulement les instances protecteurs du citoyen, protecteur national de l'élève, le nouveau protecteur, il va y avoir le Conseil supérieur d'éducation, la Commission des droits de la personne, par la suite un bloc de chercheurs, par la suite un bloc d'associations de parents, dont la coalition des parents, et par la suite l'ensemble des syndicats okay. d'enseignement du Québec en panel.
Ouh là là, oui. Ben là, je pense qu'on ne baignera pas dans la sérénité nécessairement, mais c'est comme ça qu'on finit par avancer. Oui. Il faut qu'il y ait un peu de choc des idées.
Tout à fait. Voilà. Le débat est essentiel. Il s'agit de l'avenir de nos enfants au Québec.
Oui. Ben, Mme Nugent, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ce colloque mercredi, ben, on aimerait en avoir des échos peut-être plus tard cet hiver, voir où tout cela nous a amenés. Alors, on se reparle à ce micro.
Il va avoir pleinement d'échos.
Parfait. Merci.
Merci.